Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. Le procès de Georges Tron, finalement renvoyé ce soir à une date ultérieure à l'issue d'une journée de cafouillage et sous la pression de la défense, le président de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a invoqué un problème de délai impossible à tenir. Explication à suivre de Florence Turme. La catastrophe de Mias dans les Pyrénées-Orientales hier, toujours impossible d'établir avec certitude les circonstances du drame. Erreur humaine ou problème technique, ce soir le procureur de la République de Marseille a tenu une conférence de presse. Marie-Christine Loriol l'a suivi pour nous. La conclusion à Bruxelles du sommet européen, pas beaucoup d'annonces, des avancées timides sur le Brexit et un regard porté sur la situation d'Airbus en pleine crise de gouvernance. Invité de ce journal, Guy Dutheil, spécialiste aéronautique et journaliste au Monde. Journée à rebondissement, journée très tendue devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. À l'issue de la première semaine d'audience, le procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron, jugé pour viol et agression sexuelle, a finalement été renvoyé à une session ultérieure, la cour d'assises ayant cédé aux demandes répétées de la défense. Florence Turme.
Sa première demande de renvoi rejetée, Éric Dupond-Moretti abat une nouvelle carte. Le matin, le président a dit en privé, sous ce que l'on appelle la foi du palais, que cette cour aurait dû être présidée par une femme. Il l'a confirmé à l'audience publique. L'avocat demande qu'on lui en donne acte et invoque un calendrier désormais intenable. Ces 4 jours d'audience n'ont même pas permis de boucler les auditions des deux plaignantes qui se bouchent les oreilles, visiblement bouleversées. Un calendrier intenable et prétexte désormais incontournable. Lourd constat partagé par les parties civiles et l'avocat général qui rendent la défense entièrement responsable de la situation. Aujourd'hui, le terrorisme judiciaire a gagné, lance Vincent Olivier, l'avocat de Virginie Faux. Face à la mauvaise foi, il n'y a pas de limite, renchérit l'avocat général. Je crains que les débats à venir ne soient encore pollués par les boules puantes. Frédéric Bernardeau laisse la décision à l'appréciation de la cour, avec toutefois cet avertissement à l'adresse de la défense de Georges Tron. Votre comportement agressif fait que l'opinion publique retiendra que vous n'avez pas voulu être jugé. Le président ordonne le renvoi du procès à une date encore indéterminée, mais déjà marquée par l'incertitude de pouvoir prétendre à la sérénité des débats dans cette affaire.
Florence Sturm. 5 enfants tués, 6 autres toujours entre la vie et la mort, un peu plus de 24 heures après le drame survenu hier sur un passage à niveau des Pyrénées-Orientales à Mias. Il n'est toujours pas possible d'établir clairement les responsabilités en jeu. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui a provoqué la collision entre un bus scolaire et un TER, mais les témoignages pour l'instant divergent. Marie-Christine Loriol.
Le procureur de la République de Marseille a tenté ce soir de donner les premiers éléments de l'enquête, mais de nombreuses zones d'ombre persistent. Dans le bus se trouvaient 23 enfants et la conductrice âgée de 46 ans. 5 enfants sont décédés. Ce soir, le pronostic vital est toujours engagé pour 6 des jeunes victimes. Quant aux circonstances de ce terrible drame, les investigations sont toujours en cours. La scène de l'accident est gelée et 2 experts de Montpellier et d'Aix-en-Provence ont été désignés. Les deux conducteurs du TER, dont un élève stagiaire, ont été contrôlés négatifs aux tests d'alcool et de stupéfiants et le train roulait à 75 km/h contre 100 autorisés. Test d'alcoolémie négatif également pour la conductrice du bus qui n'a pas encore pu être auditionnée. Reste une inconnue, les barrières de passage. Selon la majorité des auditions, 14 selon le procureur de Marseille, ces barrières étaient baissées au moment de la collision, mais d'autres témoignages restent à venir.
La fin de la grève du nettoyage dans les gares du nord de l'Île-de-France ce soir. Depuis 1 mois et demi, les grévistes, soutenus par Sudrail et Force ouvrière, réclamaient la simple application de la convention collective du secteur. Un accord a finalement été trouvé avec leur employeur, accord acté par l'Assemblée générale des salariés ce matin et validé par un protocole d'accord signé ce soir. Les salariés reprendront le travail lundi matin. Pas de coup de pouce pour le SMIC. Au 1er janvier, le salaire minimum augmentera mécaniquement de 1,24% pour tenir compte de l'inflation. Ça fera 9,88 € brut de l'heure, Guillaume Gaven.
C'est une hausse à minima. Le SMIC va s'élever l'an prochain à près de 1 500 € brut par mois, soit une augmentation de 18,20 €. Mais en net, la hausse sera plus importante. Les cotisations salariales vont baisser. Du coup, le ministère du Travail parle d'une hausse de 20 € net de janvier à septembre, puis de 35 €. Le ministère qui n'a donc pas accordé de coup de pouce au SMIC, le dernier remonte à 2012, il ne fait que suivre les préconisations du groupe d'économistes pour qui un coup de pouce aurait, je cite, « fragilisé les améliorations en cours ». Ce groupe va même plus loin et recommande de supprimer à l'avenir la revalorisation annuelle mécanique ou de la modifier pour la rendre moins avantageuse, ne l'indexer par exemple plus que sur l'inflation. L'hypothèse est à l'étude et il est de plus en plus question d'une réforme pour 2018. On devrait en savoir un peu plus mardi à l'issue de la Commission nationale de la négociation collective.
Guillaume Gaven. L'extrême droite de retour au gouvernement en Autriche, le FPÖ, le Parti de la Liberté d'Autriche, a annoncé ce soir avoir scellé un accord de coalition avec le conservateur Sébastien Kurz, ce qui ouvre les portes de la chancellerie aux jeunes dirigeants chrétiens-démocrates. Une conférence de presse est prévue demain. La seconde phase des discussions autour du Brexit va pouvoir s'ouvrir. C'est un des points actés lors du sommet européen qui s'achevait aujourd'hui à Bruxelles. Les questions liées aux futures relations, notamment commerciales, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne seront prochainement débattues puisque les modalités du Brexit sont désormais mieux connues, notamment en ce qui concerne le droit des expatriés, la frontière nord-irlandaise ou encore la facture dont devra s'acquitter la Grande-Bretagne. Au-delà du Brexit, pas beaucoup d'avancées à signaler lors de ce sommet, si ce n'est quelques accords touchant à la défense européenne. On n'en est pas encore à l'avènement d'une armée commune, loin s'en faut, mais des progrès substantiels ont été accomplis, les précisions depuis Bruxelles de Quentin Dickinson.
Revenons un peu en arrière. C'était au lendemain de la guerre de 1940 à 1945. Les Européens avaient rêvé d'une véritable armée européenne. Un traité avait même été paraphé à cet effet. Et l'on attendait la mise en œuvre de cette Communauté européenne de la défense, la CED. Mais une coalition de gaullistes et de communistes allait faire capoter cette initiative en refusant la ratification par l'Assemblée nationale française. Et pendant 40 ans, plus aucun dirigeant européen n'est parvenu à ressusciter cette Europe de la défense en raison de la prédominance de l'OTAN tout au long de la guerre froide et de l'opposition des Britanniques. Et ce qu'il faut remarquer ce soir, c'est que les Britanniques qui veulent se retirer de l'Union européenne, qui veulent se retirer de tous les mécanismes de l'Union européenne, disent « Eh bien, si vous faites cette Europe de la défense, on ne va pas s'y opposer puisqu'on sera à l'extérieur, mais nous voudrions bien y participer ». C'est indiqué qu'il y a eu un changement monumental de pied de la part des Britanniques, mais aussi l'ouverture d'une possibilité nouvelle pour cette défense. C'est la défense pas uniquement opérationnelle, pas uniquement les armées, mais aussi et surtout sans doute celle de l'industrie de défense qui est très morcelée en Europe à l'heure actuelle. Donc c'est un grand pas en avant qu'on a vu aujourd'hui, un peu escamoté peut-être par le Brexit, par les migrations et autres sujets qui étaient à l'ordre du jour, mais c'est tout de même une avancée quasi spectaculaire dans l'histoire de la défense européenne.
Quentin Dickinson. Autre question importante à l'ordre du jour de ce sommet, celle d'Airbus. Le géant aéronautique européen traverse actuellement une crise de gouvernance dans le contexte compliqué de plusieurs enquêtes pour corruption. Bonsoir Guy Dutheil.
Bonsoir à vous.
Invité de ce journal, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des sujets aéronautiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron, à Bruxelles, annonce aujourd'hui vouloir, je cite, être très vigilant quant aux décisions prises concernant la gouvernance d'Airbus, sans pour autant qu'il soit question de s'immiscer dans la gestion du groupe. Le président français s'exprimait aux côtés d'Angela Merkel. Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui arrive un peu à contre-temps puisque visiblement Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, a mené de son côté sa petite restructuration interne qui va aboutir très vite en chamboulant l'organigramme du groupe?
Tout à fait, c'est surtout une déclaration qui montre qu'aujourd'hui les États, comme ils l'avaient d'ailleurs souhaité en 2013 quand il y a eu les changements de statut du groupe Airbus, qui de ADS est devenu groupe Airbus aujourd'hui, c'est une déclaration qui montre que les États sont aujourd'hui faibles et n'ont plus d'influence, en tout cas plus l'influence qu'ils avaient auparavant dans le groupe Airbus, dans l'avionneur européen. La France et l'Allemagne ont chacun 11%, c'est des actionnaires de référence, mais ce ne sont que des actionnaires minoritaires, et ils n'ont, et notamment la France n'a plus de représentants d'État dans le board d'Airbus, dans le conseil d'administration. Donc ils n'ont plus l'influence qu'ils avaient auparavant et ils ne peuvent donc plus influer sur la gouvernance d'Airbus véritablement. Ils peuvent quand même conseiller, on voit bien qu'ils essaient d'influer quand même sur le destin du groupe, mais ce n'est plus comme avant, ils ne sont plus décideurs en tout cas. On voit bien que le patron du groupe et le conseil d'administration ont décidé seuls de la nouvelle réorganisation qui va voir le numéro 2 du groupe, Fabrice Brugier, s'en aller dès le début de l'année prochaine, en février, et le patron exécutif, le président exécutif Tom Enders, ne pas solliciter un renouvellement de son mandat.
Un troisième mandat, voilà,
en 2019.
On va revenir sur ce jeu-là de chaises musicales. En même temps, donc, vous nous dites les États actent en quelque sorte leur état de faiblesse, mais en même temps, Emmanuel Macron et Angela Merkel disent ce soir, nous prendrons les meilleurs, nous veillerons aussi à ce que les nationalités soient bien représentées.
Bah, ce sont un peu des déclarations verbales, on va dire, mais en vérité, c'est le groupe Airbus qui décidera. On a bien vu que là, ils ont décidé eux-mêmes de réorganiser à leur main le groupe, et les États n'ont pas pu choisir les hommes qu'ils voulaient peut-être placer, s'ils en avaient à placer. C'est le groupe lui-même qui a décidé, alors bien ou mal, c'est le groupe.
Ouais, ça fait un peu règlement de compte, non? Vous l'évoquiez à l'instant, Tom Enders qui fait en sorte de placer un numéro 2 qui sera probablement son dauphin, le numéro 2 actuel qui est écarté sans ménagement. Règlement de compte, vous diriez ça dans un contexte aussi qui est compliqué avec les enquêtes en cours?
Règlement de compte, oui, ça y ressemble un petit peu parce que il est quasiment de notoriété publique que Fabrice Brugier et Tom Enders étaient des rivaux qui s'entendaient de moins en moins et que ça fait déjà des mois que Tom Enders avait préparé l'éviction de son numéro 2. Et les enquêtes qui aujourd'hui assaillent le groupe Airbus, qui découlent d'ailleurs d'un audit interne décidé par Tom Enders lui-même, font que Tom Enders lui-même ne peut plus solliciter un troisième mandat, mais c'est vrai que c'est lui qui a décidé cette réorganisation-là, quasiment seul, en tout cas à sa main, puisque le conseil d'administration où il est présent a acté ses décisions, on peut dire ça comme ça.
Quand le chef de l'État explique qu'il veut des clarifications, il l'a dit ça aujourd'hui à Bruxelles, hein, sur le management et les règles de fonctionnement, en sachant qu'il existe des règles assez spécifiques chez Airbus, comment vous comprenez cette demande d'Emmanuel Macron?
C'est-à-dire qu'il y a quand même des dangers qui planent sur le groupe avec ces enquêtes qui pourraient être pénalisantes, très pénalisantes pour le groupe si d'aventure les autorités américaines s'en mêlaient, notamment qui pourraient interdire à Airbus de vendre sur le territoire des États-Unis ou ailleurs ces avions. Ça pourrait être très pénalisant. Donc c'est une façon pour les États qui sont quand même actionnaires et actionnaires importants, même s'ils sont minoritaires et qui n'ont plus véritablement voix au chapitre, c'est une façon pour les États de prévenir le groupe qu'il se réorganise vite et qu'il fasse en sorte que ces enquêtes trouvent rapidement leur terme et d'une façon assez positive pour le groupe. C'est à mon avis, c'est comme ça que je comprends un peu les choses. Donc ils enjoignent à Tom Enders c'est d'ailleurs plus ou moins sa mission, avant de s'en aller en mai 2019, de nettoyer le groupe et de partir sur une situation assainie.
Il y a du chemin à faire, il y a un gros travail pour y arriver?
Oui, mais enfin on comprend aussi que ce genre d'enquête, c'est pas totalement spécifique à Airbus, qui pourrait peut-être y avoir les mêmes chez d'autres avionneurs, notamment le principal rival américain d'Airbus. On a voulu dire que les autorités françaises et allemandes ont plutôt prévenu les Américains de ne pas trop s'immiscer dans ces affaires-là, car elles pourraient subir ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Donc, voilà, Airbus devrait pouvoir s'en sortir, même s'il aura sûrement une amende à payer et que ça lui coûte un changement total de son état-major.
Dans l'avenir, et de ce que vous savez de la situation Airbus, est-ce que Guillaume Faury pourrait être le successeur de Tom Enders en 2019?
A priori, c'est comme ça qu'il est installé. Il va avoir 2 ans pour faire ses preuves. On verra bien pendant les 2 ans si Tom Enders arrive à assainir la situation et si Guillaume Faury obtient les mêmes résultats que ceux qu'a obtenu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui Fabrice Brugier. Oui, il pourra prendre éventuellement la succession de Tom Enders, mais il faudra qu'il fasse aussi bien, voire mieux, et au vu des résultats obtenus par Airbus Aviation Commerciale, il a du chemin à faire, il y a du boulot, comme on dit.
Merci à vous, Guy Dutheil, spécialiste aéronautique au Monde, et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs sur l'article que vous publiez ce soir dans les colonnes du Quotidien. Nouvelle journée de mobilisation contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Aujourd'hui, 4 Palestiniens ont été tués dans des heurts avec les forces israéliennes. 160 autres ont été blessés, la plupart des victimes ont été recensées dans la bande de Gaza. Et puis le procès en Belgique de Salah Abdeslam est reporté à une date ultérieure. Il devait se tenir la semaine prochaine, mais l'avocat du seul rescapé des commandos du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis a demandé du temps pour préparer sa défense. Une nouvelle date pour ce procès sera fixée lundi par le tribunal. Légère amélioration des conditions météo demain. Le ciel restera gris, sauf autour de la Méditerranée, mais le temps sera moins instable. De la neige est toutefois à attendre à partir de 600 mètres sur les Pyrénées, encore plus bas sur les autres massifs, voire en plaine dans le Grand Est. De moins 2 à 7 degrés sont attendus au lever du jour pour les températures minimales. Les maximales seront comprises entre 1 et 10 degrés.